Le journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les Français suspendus aux lèvres de Jean Castex à 15 jours de Noël. Le gouvernement doit en effet préciser aujourd'hui ce que l'on pourra faire ou non lors de ces fêtes de fin d'année. Et puis le jour même où le gouvernement est donc amené à trancher en choisissant éventuellement d'aller contre l'avis des médecins et des scientifiques. Et bien c'est également aujourd'hui que la commission d'enquête du Sénat, chargée de tirer les leçons de la crise sanitaire, doit dévoiler ses conclusions.
Frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, Aéroport de Paris va supprimer 11% de ses effectifs, Thomas.
Et reste à savoir si la crise sanitaire est bien la seule à justifier un tel plan de vol. À 3 jours d'un couperet pour les négociations, le Brexit devrait s'inviter aujourd'hui et demain au sommet des dirigeants européens. Sommet à l'agenda déjà lourdement chargé.
Et nous en reparlerons après votre journal, Thomas, dans la grande table des idées, avec notre invité, l'historien britannique Robert Tombs. Il était partisan du livre au référendum de 2016. Nous reviendrons avec lui sur cette histoire sans fin qu'est le Brexit. L'invité de la rédaction aujourd'hui.
Nous recevrons Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, l'agence nationale chargée du développement des exportations et des investissements internationaux. Enfin, nous tâcherons de détailler cette amende de 11 millions d'euros infligée ce matin à Google, la plus importante jamais prononcée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et comme évoqué, le Brexit, une histoire sans fin avec Robert Tombs.
Déconfinement partiel ou maintien des restrictions. C'est à 18h que le Premier ministre Jean Castex devrait sinon trancher. À tout le moins donner la tendance, seule certitude, alors que les chiffres de l'épidémie en France stagnent depuis maintenant plusieurs jours. L'objectif souhaité par le gouvernement d'arriver à moins de 5000 cas de contamination par jour le 15 décembre prochain semble de plus en plus compliqué à atteindre. Dès lors, à quoi faut-il s'attendre? Couvre-feu avancé, réouverture des cinémas et théâtres repoussés, déplacements limités, seule certitude. Et c'est même désormais devenu une habitude. Chaque jeudi, la conférence de presse de l'exécutif sur la crise du Covid-19 est attendue avec une certaine angoisse par tous ceux qui se demandent à quoi va bien ressembler leur quotidien dans les semaines à venir et plus encore sans doute à l'approche des fêtes de Noël. C'est bien là d'ailleurs la principale crainte du gouvernement, que la circulation du virus ne soit pas assez basse au moment critique de ces fêtes, lorsque les réunions familiales vont se multiplier et faire courir le risque d'un redémarrage de l'épidémie. Sans compter que l'exécutif doit également faire face à la défiance des Français. 36% seulement d'entre eux font aujourd'hui confiance au gouvernement pour lutter efficacement contre l'épidémie. C'est 12 points de moins qu'il y a encore 15 jours. Enfin, c'est aussi dans ce contexte que ce matin, Rosalie Lafarge, la commission d'enquête du Sénat, chargée de tirer les leçons de la crise sanitaire, a dévoilé ses conclusions.
6 mois de travaux, près de 50 auditions, c'est effectivement l'heure du bilan pour les sénateurs et il est sévère. Alain Milon est le président LR de cette commission d'enquête.
Il est évident que nous avons ressenti de la stupeur, que nous avons ressenti beaucoup d'incompréhension et même de la colère devant l'état manifeste d'impréparation du pays face à l'épidémie du Covid-19.
Et dans le viseur des sénateurs, on retrouve notamment le numéro 2 du ministère de la Santé. La commission impute directement la pénurie de masques chirurgicaux dont a souffert le pays au début de l'épidémie au directeur général de la Santé. Informé de la nécessité de reconstituer le stock, Jérôme Salomon a choisi il y a 2 ans de ne pas le faire, sans prévenir la ministre Agnès Buzyn, souligne cette commission, et en faisant pression pour modifier un rapport recommandant justement d'avoir à disposition 1 milliard de masques.
L'IGS est en effet intervenu directement pour obtenir la modification de la recommandation du rapport d'experts qui concernait la constitution de stocks stratégiques.
La rapporteure Les Républicains, Catherine Deroche.
La modification qui a été formulée par l'IGS, elle est importante parce qu'en fait, il était mis la nécessité, l'accent sur un stock massif. Or, lui, il avait fait le choix de plutôt avoir un stock très faible. Donc, à notre sens, il a souhaité en effet modifier les termes du rapport d'experts, de façon à ne pas être contredit dans la stratégie que lui-même avait choisie.
Au-delà des masques, la commission d'enquête pointe plus largement un défaut de préparation, de communication et plus globalement de stratégie dans la gestion gouvernementale de cette crise sanitaire.
Comment éviter que la course à la vaccination ne se transforme en emballement médiatique susceptible de provoquer, voire de renforcer la méfiance de la population. Après que le Royaume-Uni a commencé cette semaine une campagne de vaccination de masse, avant même que des données scientifiques exhaustives n'aient été rendues publiques, nombre de médecins et scientifiques en appellent à plus de transparence. Mardi dernier, le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université britannique d'Oxford est le premier à avoir vu ses résultats d'efficacité validés par la revue scientifique The Lancet, et de leur côté, une vingtaine d'experts américains indépendants doivent eux examiner aujourd'hui les données du vaccin fabriqué par le duo américano-allemand Pfizer-BioNTech afin de recommander ou non son autorisation. Frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, comme d'ailleurs l'ensemble du secteur aérien, ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens, va supprimer 11% de ses effectifs. Le projet d'accord de rupture conventionnelle collective a été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives. Emmanuel Grabet, bonjour.
Bonjour.
Alors cet accord doit permettre d'éviter les départs contraints et il fixe, Emmanuel, à 1150, donc le nombre maximum de départs volontaires sur un total de 6250 salariés.
Oui, et sur ces 1150, 700 ne seront pas remplacés. L'accord prévoit également qu'aucun départ contraint pour motif économique ne pourra intervenir avant le 1er janvier 2022. D'ici là, la direction espère y voir plus clair sur l'avenir du secteur, car c'est certes une taille très importante dans les effectifs du groupe. 1150 départs, c'est 20% du total, mais qui doit être mis en regard avec l'effondrement du trafic aérien. En octobre, la fréquentation d'Orly et de Roissy a atteint à peine le quart de celle de l'an dernier. Il pourrait y avoir un rebond à Noël, mais il sera bref, selon la direction, qui n'attend pas de retour à un niveau de trafic d'avant-crise avant au mieux 2023. Donc cette ERCC, rupture conventionnelle collective, signée par les trois organisations syndicales représentatives du groupe, les syndicats, qui ont réussi à faire sortir du champ des négociations deux autres accords, un dit de performance collective, un autre portant sur les activités partielles de longue durée que la direction leur proposait comme un paquet, les trois ou rien, refus acté début novembre. Les syndicats y voyaient autant une adaptation aux effets de la crise qu'une volonté de préparer la privatisation d'ADP. Il faut bien garder en tête que cette privatisation a été suspendue par le gouvernement, mais elle n'est pas totalement ajournée. Ces deux accords donc rejetés pour ne retenir que cette ERCC. Pas de quoi pour autant rassurer les représentants du personnel. D'une part, l'accord doit encore être validé par la direction régionale du travail et de l'emploi. Et puis surtout, le périmètre des métiers qui pourront entrer dans le cadre de cet accord va être fonction de leur spécificité, de leur technicité. Plus de 1600 salariés pourraient sortir du cadre de cet accord car leur savoir-faire et leur connaissance sur la gestion d'un espace aéroportuaire sont trop précieux à l'entreprise.
Merci Emmanuel Grabet. C'est non seulement l'un des pays où le nombre de morts par habitant est aujourd'hui le moins élevé d'Europe, mais il figure également parmi les modèles dans le monde ayant obtenu les meilleurs résultats sanitaires tout en ayant respecté les règles démocratiques. Dès lors, comment s'étonner que les Finlandais soient donc restés fidèles à leur première ministre, pour le moins atypique Sanna Marin, devenue il y a un an tout juste la plus jeune dirigeante de la planète jamais portée à la tête d'un pays. C'est une correspondance signée Frédéric Faux.
Oman osansa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
Les Finlandais avaient l'habitude des hommes politiques atones, presque effacés. Mais cette époque est révolue. Depuis un an, ils ont appris à voir presque tous les jours Sanna Marin à la télévision. Pour commenter la crise du Covid, assumer ses décisions et même se féliciter de ses résultats. Avec la Norvège et Chypre, la Finlande est le pays où le nombre de morts par habitant est le moins élevé d'Europe. Si au niveau économique, beaucoup de décisions ont été gelées par l'épidémie, elle a su s'affirmer pour défendre les droits sociaux des plus pauvres, étendre le congé parental ou protester contre la fermeture de l'une des plus grandes usines de papier du pays. Pour cet élu qui est à gauche du Parti social-démocrate, l'opposition est idéologique, mais pas seulement. Nilo Kopi est professeur à l'université d'Helsinki.
Il y a une question, je dirais, de genre. Une jeune femme et puis les représentants d'habitude du patronat et de l'industrie sont plutôt des hommes plus âgés, disons, double son âge. C'est pas du tout la même perspective sur les choses. Il y a un certain style assez inhabituel, disons, en Finlande, je dirais, mais qui marche très bien.
Selon un sondage publié le 30 novembre dernier, 34% des Finlandais mettaient Sanna Marin en tête de leurs intentions de vote, soit en première position. l'opposition. Mais pour la première ministre, le plus dur est peut-être à venir. Si la crise économique succède à la crise épidémique, c'est le parti populiste des Finlandais, devenu le deuxième du pays en 2019, qui pourrait bien lui succéder.
Les mesures que doit dévoiler à la mi-journée la Banque Centrale Européenne sont attendues avec presque autant d'empressement que le Père Noël sous pression en raison d'une inflation négative. La BCE, qui dépense sans compter pour soutenir l'économie de la zone euro face à la pandémie, devrait encore amplifier son intervention, une manière de souligner que ses efforts pour aider à la sortie de la crise s'inscrivent dans la durée. On l'annonce d'ores et déjà comme le sommet de tous les dangers et il suffit pour s'en convaincre de parcourir le menu qui attend aujourd'hui et demain les 27 dirigeants de l'UE, Brexit, pandémie, climat, mais aussi de possibles sanctions contre la Turquie, sans oublier le déblocage du plan de relance. Ce dernier, censé aider les économies des pays membres à atténuer les effets de la crise sanitaire, est en effet aujourd'hui paralysé par un veto de la Hongrie et de la Pologne, toutes deux opposées à un mécanisme conditionnant le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Mais l'horizon semble à présent se dégager. Hier, un compromis pourrait en effet avoir été trouvé. En clair, les États concernés par une décision de suspension des fonds pourront la contester devant la Cour de justice. Et aucun fonds européen ne pourra ainsi être retenu tant que la Cour n'aura pas rendu son verdict. Or, ces recours en justice pouvant prendre un certain temps, eh bien, ça signifie par exemple qu'il pourrait s'étaler après 2022, date en l'occurrence des élections législatives en Hongrie. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles, quoi qu'il en soit. Angélique, ce compromis doit donc être encore entériné par les dirigeants des 27.
Oui, ce compromis doit être entériné. C'est une décision très attendue ici, car sans budget et sans plan de relance, pas de sauvetage des économies et pas de budget à la hauteur pour prendre le virage écologique. Mais va-t-on pour autant sacrifier l'état de droit sur l'autel de la relance? Non, indiquent plusieurs sources européennes. Le compromis négocié hier par l'Allemagne ne vide pas de sa substance ce mécanisme inédit. Le nouvel outil conditionnera bien à l'avenir le versement des fonds européens au respect de l'état de droit, une justice indépendante, une politique anticorruption, explique un diplomate qui a étudié dans le détail le document. Mais Budapest et Varsovie ont tout de même réussi à gagner du temps, ce que regrette l'eurodéputé vert allemand Daniel Freund, négociateur de ce mécanisme pour le Parlement. Il se réjouit qu'il n'y ait pas eu de recul avec le compromis, mais regrette le temps gagné, synonyme pour lui de victoire politique pour le Hongrois Viktor Orban.
Le délai qu'il a obtenu maintenant, il sera suffisant pour que ça devienne opérationnel après sa réélection en 2022. Et ça, c'était quand même l'objectif premier pour lui. Il a besoin des fonds européens jusqu'aux élections pour financer sa campagne. Et ça, il me semble qu'il l'a obtenu en effet.
Le recours devant la Cour de justice européenne, cela prend en effet des mois. Si l'on actionne une procédure d'urgence, elle pourra se prononcer avant les élections 2022, estime de son côté une source proche de l'Élysée. Alors les 27 vont-ils valider le compromis? C'est en tout cas, avec le climat, l'un des enjeux majeurs de ce sommet.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Après des
Vous
mois...
Vous pouvez me balancer à France...
Après des mois de pourparlers infructueux et à l'issue d'un dîner de 3 heures à Bruxelles, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont donné 4 jours pour éviter un no deal. Le sort des négociations post-Brexit sera tranché d'ici dimanche, ont-ils lancé après avoir à nouveau pris acte de leur profonde divergence. Au point d'ailleurs que les deux parties se sont montrées incapables de rédiger le moindre communiqué commun. Et puis ce matin, l'Union européenne a elle-même présenté plusieurs mesures d'urgence en cas de no deal. Voilà qui ne laisse donc peu de place à l'espoir de parvenir d'ici à la fin du week-end à une alternative au choc que provoquerait l'absence d'un accord, même si c'est vrai, l'histoire de ce feuilleton interminable nous aura déjà démontré à de nombreuses reprises combien les calendriers sont assez largement sujets à caution. Quoi qu'il en soit, et tandis que les perspectives de compromis avec l'UE s'amenuisent, Londres et Singapour ont signé hier un accord de libre-échange. Rappelons que le Royaume-Uni avait déjà signé en octobre dernier un premier accord commercial bilatéral majeur post-Brexit avec le Japon. Enfin, c'est encore dans ce contexte que les autorités britanniques ont annoncé hier qu'elles allaient abandonner les droits de douane imposés sur des produits américains dans le cadre du litige opposant Airbus et Boeing, se désolidarisant ainsi de l'UE, avec l'espoir d'obtenir un accord commercial post-Brexit avec Washington. Et pour parler, entre autres choses encore et toujours, du Brexit, donc invité de la rédaction aujourd'hui, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, l'agence nationale chargée du développement des exportations et des investissements internationaux. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je le disais à l'instant, on est encore très loin d'un accord en vue avec le Brexit et c'est ainsi que les 30 000 entreprises qui exportent aujourd'hui en Grande-Bretagne attendent donc d'avoir de la visibilité. Comment les préparer dans ce contexte à ce qui les attend demain? Que peuvent-elles craindre ou espérer?
D'abord, effectivement, c'est un enjeu très important parce que la Grande-Bretagne est... pour la France, c'est d'ailleurs notre premier excédent commercial, hein. Notamment dans le secteur agroalimentaire, il y a très régulière. Donc il faut très très vite, une fois que le Brexit sera intervenu, parce que de toute façon il interviendra, quels que soient les termes de l'accord ou de l'absence d'accord avec l'Union européenne, il faut très vite mettre en situation nos entreprises, notamment les PME ou les TPE, pour qu'elles puissent reprendre le fil de leurs exportations vers la Grande-Bretagne comme avant, et peut-être même, pourquoi pas, mieux qu'avant. J'étais ce matin à 5h du matin avec Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur à Rungis, et nous avons eu d'ailleurs une réunion avec toutes sortes d'entreprises présentes à Rungis qui exportent vers la Grande-Bretagne. L'objectif, c'est de se préparer et puis très très vite de passer à des travaux pratiques pour adapter ce qui devra l'être, hein, en fonction de chaque produit, de chaque entreprise, pour rester dans le coût des exportations et des ventes vers la Grande-Bretagne, qui de toute façon a besoin d'importer une grande partie de ce qu'elle mange, une grande partie de ce qui la soigne, une grande partie des pièces pour son industrie d'ailleurs.
En 2019, la France avait regagné pour la première fois des parts de marché à l'export. Est-ce qu'avec la crise que l'on traverse en ce moment, on peut retrouver encore ces niveaux d'exportation?
Oui, parce que si on a regagné des parts de marché, ce qui ne s'était pas produit depuis une vingtaine d'années, ce n'était pas l'effet du hasard, c'était l'effet d'une compétitivité retrouvée, d'une confiance plus grande des entreprises dans les aventures internationales, et puis aussi d'un dispositif d'accompagnement des pouvoirs publics, les régions, l'État, ce qu'on a appelé la Team France Export, beaucoup plus performant. Donc ces fondamentaux-là, ils sont demeurés. Et tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est un peu comme dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est de repartir à point. C'est pour ça qu'on a lancé avec le gouvernement un plan de relance dès le 1er octobre, pourtant un mois qui a été difficile pour des raisons sanitaires, en disant c'est maintenant qu'il faut relever la tête, se préparer à se projeter de manière à être parmi les premiers lorsque l'activité reprendra pleinement, à dealer et à être en situation d'exporter à nouveau.
Alors l'autre mission de Business France, c'est de développer les investissements internationaux. En France, il se trouve que vous publiez ce matin avec la direction du Trésor un tableau de bord de l'attractivité de la France 2020. La France est-elle bien placée par rapport à ses principaux concurrents?
Oui, alors, l'attractivité, vous savez, c'est ce qu'on appelle un heure de France à l'économie globale. On parlait à l'instant du commerce extérieur. L'autre marqueur, c'est l'attractivité pour les investisseurs étrangers. Et puis c'est aussi le côté face d'une médaille dont l'autre côté, c'est la compétitivité. Si vous êtes compétitif dans votre environnement économique, forcément vous êtes attractif. Et c'est une aventure qui s'est déroulée en gros en trois saisons, comme on dirait aujourd'hui. La première saison, elle date d'assez longtemps. Elle a permis de construire des fondamentaux très solides en France, hein. Nos infrastructures, par exemple, le prix de notre énergie, la productivité de nos travailleurs, des choses comme ça. La taille, évidemment, de notre marché au cœur de l'Europe. Ça, c'était la première saison. Elle date, si je puis dire, d'assez longtemps. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a su écrire depuis 3-4 ans, une nouvelle saison avec les réformes qui ont été engagées dès 2017 et qui ont permis un réglage beaucoup plus fin sur des questions question qui était perçue comme la preuve même que la France était une belle endormie. Je pense à plus de flexibilité en matière de code du travail, par exemple. C'est quelque chose qui a été important. Je pense à l'évolution de la fiscalité des entreprises qui s'est inscrite dans une trajectoire de baisse. Je pense aussi au fait qu'on a maintenu une disposition très importante qui est le crédit impôt recherche qui fait de la France le premier pays pour les centres de R&D en Europe. Ça, c'était les deux premières saisons. Et fort de cet acquis, maintenant, il faut écrire, notamment dans le cadre du plan de relance, la troisième saison qui nous permettra de confirmer nos acquis. On est devenu le numéro un en Europe en termes d'investissement étranger en 2019. Là aussi, ça s'était jamais vu depuis très 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 longtemps. Il faut confirmer cette trajectoire et c'est pour ça que le plan de relance est plein de bonnes choses pour confirmer la cohérence de la politique qui est conduite et puis être meilleur encore dans des domaines absolument cruciaux pour l'avenir, pour les investisseurs aussi, que sont la digitalisation de l'économie française, que sont la transition écologique, qu'est la formation, l'évolution du capital humain qui, heureusement, au XXIe siècle, reste quand même l'enjeu cardinal. C'est les hommes et les femmes, c'est le cœur de tout. Et votre attractivité, elle est quand même d'abord votre capacité à avoir les hommes et les femmes avec les talents, les compétences qu'il faut au bon endroit, et c'est-à-dire dans notre cas en France.
Et on terminera par ces mots. Merci Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, d'avoir répondu à notre invitation. Jamais avare d'opportunités pour légitimer ses rêves de grandeur, Recep Tayyip Erdogan est attendu en triomphateur aujourd'hui à Bakou. Le président turc doit y participer à la parade victorieuse de l'armée azerbaïdjanaise à l'issue de sa guerre meurtrière menée contre les forces arméniennes du Nagorno-Karabakh. Victoire rendue possible grâce au précieux soutien d'Ankara, qui aura vu notamment une occasion de renforcer son poids géopolitique dans le pré-carré russe du Caucase. Parce que les raisons de se réjouir en Syrie n'existent pas ou si peu, c'est donc grâce à un bilan meurtrier en baisse que certains voudraient voir l'horizon quelque peu s'éclaircir sur la ligne de front avec 387 000 morts. 2020 est l'année la moins meurtrière en Syrie depuis le début du conflit en 2011. Les chiffres Omar Waman n'en restent pas moins démesurés puisqu'en presque 10 ans, la guerre aura poussé plus de la moitié de la population à fuir.
Après des années de bombardements aveugles, de massacres et de guerres par procuration, la Syrie est en ruine, exsangue. La diplomatie sous l'égide des Nations Unies censée mettre un terme définitif à ce conflit en panne. Deux territoires échappent toujours au contrôle du régime de Bachar el-Assad et de ses alliés russes et iraniens. Deux zones suspendues à un règlement politique. Tout d'abord, dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, où 3 millions de civils sont pris au piège. Dans cette province rebelle, les combats ont baissé d'intensité à la faveur d'une trêve, mais n'ont jamais véritablement cessé. À l'approche de l'hiver, les conditions de vie de près d'1,5 million de personnes déplacées qui habitent dans des camps de fortune près de la frontière turque vont se dégrader davantage. Autre région où rien n'est réglé, le nord-est de la Syrie, dominé par les Kurdes, vainqueurs de Daesh, un territoire morcelé, envahi l'an dernier par des groupes islamistes soutenus par la Turquie. Seules des négociations permettront de sortir de l'impasse. Une lueur d'espoir, l'arrivée en janvier prochain de Joe Biden à la Maison-Blanche, synonyme du retour du multilatéralisme.
5 semaines après le scrutin et alors que les États ont déjà certifié leurs résultats, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face au démocrate Joe Biden. Le président sortant a dit hier souhaiter intervenir personnellement dans le recours post-électoral déposé en l'occurrence par le Texas devant la Cour suprême des États-Unis. Facebook attaqué en justice. 2 plaintes ont été déposées hier aux États-Unis contre le réseau social pour infraction à la législation antitrust. Le groupe de Mark Zuckerberg est accusé d'abuser de sa position dominante et d'écraser ses concurrents avant qu'ils ne puissent menacer l'entreprise. Les documents citent en particulier les décisions d'acquisition de l'application de partage Instagram et de la messagerie WhatsApp. 2 autres géants du numérique visés cette fois-ci par une amende record en France, Google et Amazon, ont été respectivement condamnés à payer 135 millions d'euros après une décision ce matin de la CNIL. L'autorité française de la protection des données reproche aux deux plateformes d'avoir sciemment ignoré la législation sur le ciblage publicitaire des internautes et de ne pas les avoir suffisamment informés sur l'usage qu'ils faisaient de ce qu'on appelle les cookies. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, peut-être, Maxime, faut-il réexpliquer justement ce qu'est un cookie?
Oui, rien à voir avec les gâteaux, évidemment. Ce sont des petits fichiers, des programmes informatiques qui s'installent sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur lorsque vous naviguez sur Internet. On les appelle aussi des traceurs parce qu'ils enregistrent toutes vos habitudes pour mieux cibler les publicités que vous voyez. Mathias Moulin est directeur en charge des contrôles et des sanctions à la CNIL. Il explique le problème.
Il renvoie des informations effectivement sur votre navigation, sur ce que vous avez pu mettre dans votre chariot lorsque vous avez passé des commandes ou pas été au bout de la commande, quelles annonces vous avez consultées et ainsi de suite. Ces cookies étaient déposés avant même que vous ayez fait une action, avant même que vous ayez fait défiler la page, que vous ayez cliqué sur un lien. Voilà. Dès que vous arriviez sur la page, des cookies publicitaires étaient déposés alors qu'on aurait dû vous demander votre consentement préalable.
Et la CNIL annonce que Google et Amazon ne déposent plus de cookies sans l'accord des internautes depuis 2 mois, mais que ces sociétés informent toujours très mal les utilisateurs sur les finalités de ces traceurs, d'où la sanction record annoncée aujourd'hui.
Voilà, et puis avec cette décision, Maxime, la CNIL s'en prend donc directement au modèle économique de ces plateformes.
Effectivement, car ces sociétés vivent de l'exploitation des données et leur imposer des contraintes dans ce domaine limite forcément leur chiffre d'affaires. 321 milliards de dollars pour Amazon, 166 pour Alphabet, maison mère de Google, sur les 12 derniers mois. Le montant record des amendes prononcées aujourd'hui est rendu possible par la nouvelle législation européenne sur la protection des données, le RGPD, entré en vigueur il y a 2 ans et qui permet d'imposer des amendes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, alors que ces plateformes font d'immenses profits grâce au ciblage publicitaire tout en payant très peu d'impôts. Amazon et Google dénoncent, elles, de leur côté, des règlements peu clairs et affirment qu'elles respectent bien la vie privée des internautes. Elles ont toujours la possibilité de faire appel.
Merci Maxime Tellier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Hormis quelques éclaircies à l'est, le ciel restera généralement chargé. Les Pyrénées Atlantiques ont été placées en vigilance orange pour risque d'avalanche. Et puis Météo France a également déclenché une vigilance orange pour crue, cette fois-ci sur l'Adour dans les Landes. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et puis à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Contre